Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche, dans À voix haute, je vous propose d'entendre les premières pages d'un roman de Valdas Papievis, Un morceau de ciel sur la terre, paru aux éditions Le Soupirail en 2020 et traduit du lituanien par Caroline Paliulis. Dans ce roman, un journaliste lituanien quitte Paris après une rupture amoureuse et gagne la Provence en train. In the mood for love. Il ouvrit grand sa fenêtre, regarda la cour fermée et la multitude d'autres fenêtres derrière lesquelles il apercevait des meubles. Il regardait les balcons avec des bégonias, des pétunias, un olivier solitaire et sur les toits, les petites cheminées en tuiles qui dépassaient des antennes, mais sans aucun être humain, comme si personne ne vivait là. En exhalant doucement la fumée de sa cigarette, il regardait la cour cernée de quatre murs, familière jusqu'à la moindre fissure et soudain complètement étrangère. Étrangère comme l'était cette chambre où il vivait depuis tant d'années, comme l'étaient les vêtements pendus au cintre qu'il portait tous les jours et comme l'étaient les objets qu'il touchait tous les jours. Il mit à fond la musique du film de Wong Kar-wai en attendant l'orage. Il s'approchait en roulant de gros nuages, noircissant le ciel de plus en plus, avertissant de son arrivée par des grondements de tonnerre sourds et lointains qui couvraient la mélodie lancinante. On était au cœur même de l'été. Pourtant, il semblait qu'il n'arriverait jamais. Les gens parlaient du changement climatique, qu'il n'y avait plus de saison. Pensée avril était comme un mois d'août, et maintenant tout d'un coup, on sautait à novembre, vous parlez d'une canicule. Les gens parlaient de bien d'autres choses, du président récemment élu, du mariage d'une actrice célèbre avec un basketteur célèbre, des soldes d'été, d'expositions et de concerts. Pourtant, il lui semblait que toutes ces paroles ne le concernaient en rien, n'avaient rien à voir avec lui. Comme tout le monde entrait dans cette ville, il descendrait la spirale des escaliers, traverserait la cour, sortirait dans la rue, déambulerait. Pourtant, il lui semblerait rester à la même place, alors que les immeubles, les gens, les objets glisseraient à côté de lui, sans le heurter, comme s'il n'existait pas. Il n'aurait pas pu dire depuis combien de temps durait cet état. Il lui semblait qu'il était interminable. De même, il n'aurait pas pu dire à quoi il était dû, à l'engourdissement de l'été quand la pulsation de la ville se meurt, ou bien à leur séparation d'avec Marie. Pourtant, la séparation avec Marie en avait plutôt été une conséquence plus qu'une raison. Tu t'en fous de moi, je te parle et tu ne m'entends pas. En fait, il ne s'en foutait pas. Lui-même ne comprenait pas ce qu'il se passait en lui. Il ne faisait pas d'effort pour comprendre. Parfois, il se disait « c'est une maladie de laquelle il ne voulait même pas guérir, du moins pas encore. » Il voulait, au moins pour l'instant, devenir cette cour fermée, muette, de plus en plus assombrie par l'orage qui arrivait. Penché vers la fenêtre, il regardait les paysages changer sans cesse, les uns après les autres. Il glissait comme dans un film accéléré. Après avoir dépassé les entrepôts sinistres des alentours de la gare, des piliers électriques à haute tension, des maisons décrépites et couvertes de suie, on avait bondi au sortir d'un tunnel vers des plaines vertes et jaunes dans lesquelles les champs de Bourgogne se mettaient peu à peu à onduler, à devenir vallons, avec des vaches broutant tranquillement l'herbe de leurs versants, des bourgades et des villages blottis autour de modestes églises dont les clochers invitaient le cœur à s'élever plus haut que le ciel, peu après, les rives plates du Rhône, puis, une couleur de terre cuite brûlée par le soleil, des allées de peupliers arrêtant les vents, des rochers avec les ruines crénelées de châteaux, ce serait la Provence. Il pensa, ce trajet est comme une phrase. Pour l'écrire, il ne faudrait mettre ni tiret, ni deux points, ni virgule, juste un point final, arrivé, un parcours ininterrompu, sans aucune halte, aussi incompréhensible qu'une phrase sans tiret, ni deux points, ni virgule. De même, lui était incompréhensible tout ce que ces voies ferrées symbolisaient dans son imagination et ce que l'on appelle dans les journaux le progrès technique de notre époque. Presque 1000 kilomètres et 3 heures de route. Il sortit son portable de sa poche et l'éteignit, pour toute la semaine. Est-ce que tout cela aide au rapprochement, rend moins triste? À quoi bon y penser? Il tourna les yeux vers le wagon et regarda à nouveau la femme assise en face, qui écoutait de la musique, les yeux fermés, le petit garçon au duvet de cheveux blonds endormi sur l'épaule de son père. Il regarda les gens qu'il ne connaissait pas et qui passaient à côté de lui et qu'il ne reverrait plus jamais, ou, s'il les revoyait, ce serait seulement quand il reviendrait du restaurant. Se souviendrait-il de leur visage et de leur passage? C'était l'heure du déjeuner, le rituel inévitable de la nourriture, bien que le voyage ait été court, on ne pouvait éviter de capituler devant le cadran de la montre. Les papiers beurrés se défaisaient, ça sentait le fromage et le jambon. Il lui vint à l'esprit « Les habitudes nous enferment et nous rendent semblables. » Il lui vint encore « Nous sommes comme les cellules d'une prison, même isolées par des murs aveugles, les mêmes choses s'y passent en même temps. » Il ferma les yeux. Et soudain, il voulut que ce voyage ne se termine jamais, que ce train ne s'arrête jamais, qu'il file et file. Soudain, il réalisa qu'il ne savait plus ni où menaient ses rails, ni où il allait. Pourquoi n'était-il pas resté en ville? Pourquoi s'était-il détourné du chemin familier qui s'était incrusté dans les fibres de ses muscles, ineffables comme les phrases d'une prière répétée tous les jours? Tourner place de la Bastille, longer le canal Saint-Martin? En lituanien, c'est vraiment Sventasis Martinas? Comment ça pourrait se dire autrement? Bizarre, jusqu'ici, il n'y avait jamais pensé. Marcher, marcher, passer tous ces ponts arqués sur lesquels les curieux scrutent les écluses bourbeuses, attendant que les deux niveaux de l'eau s'égalisent, que les battants s'ouvrent pour laisser voguer les péniches, passer le carrefour Stalingrad, le parc de la Villette, aller plus loin où déjà il n'y a plus rien, que des rives tristes, des banlieues pouilleuses s'étendant immensément, des plaines aux entrepôts abandonnés, leurs portes clouées de planches, des embarcadères sans bateau où la foule bigarrée s'est déjà dispersée et où quelques restes d'emballages de carton et de contreplaqués te regardent niaisement de leurs yeux qui ne veulent plus rien, où il n'y a que des cailloux, de la poussière, de l'herbe jaunie. Où est mon agrostide? Peut-on tomber amoureux d'une agrostide? Un jour, assis sur un tas de briques, il vit une touffe d'agrostides. Il s'étendit à même la terre, se fixa sur l'une d'entre elles, la plus haute. Il regarda dans le soleil brillant le petit balai se balancer sur sa frêle tige, époussetant le ciel, écartant les légers nuages du veuteux. « Je voudrais être là-bas, près de mon agrostide. C'est là-bas ma place. Pourquoi est-ce que je pars et où ?» Il ne savait plus où le conduisaient ses rails, tout comme il ne savait pas où menaient ses routes près desquelles, par lesquelles et au-dessus desquelles il filait. Au loin, il apercevait leurs panneaux indicateurs, imposant mais trop éloigné pour qu'il puisse lire quelque chose. C'était un matin d'été, lavée par nombre de jours de pluie, blanchie jusqu'à l'aveuglement, blanchie à tel point que tu ne peux pas ouvrir les yeux. Est-ce que tu n'as jamais vécu un tel matin, quand tes oreilles teintent d'une telle pureté que tu te sens comme une chenille qui voudrait s'y rouler, rouler et rouler, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi ? Toute cette beauté touchait à sa fin. Il ne se le dit pas à haute voix, seulement intérieurement. Pourtant, cette sentence, pas phrase, mais sentence, apparut soudainement comme un poignard lacérant ses veines de l'intérieur. De nouveau ce même état, comme pour dire adieu, l'inonda quand il écouta la musique de Wong Kar-wai, comme si le monde entier s'engloutissait peu à peu. Un lent coucher de soleil après lequel il n'y aurait plus de matin. Peut-être qu'il en est toujours ainsi. Quand nous sombrons, il nous semble que le monde entier sombre avec nous. Bien que cette fois-ci, tout ait été différent. Il ne se souciait plus de lui-même, tout en lui était consumé. Il ne restait plus que le sable d'un désert que les vents dispersaient comme ils voulaient, où ils voulaient. Et cette douleur, cette écharde, comme un dard qu'il ressentait depuis longtemps, lui transperça cette fois le corps comme jamais. Quand il prononça pour lui-même cette phrase, toute cette beauté touchait à sa fin.
Voix haute, Meredith Ledez.
Maintenant, on roulait en Provence. C'était une nouvelle ligne de chemin de fer sur laquelle les trains glissaient encore plus vite qu'avant, en lançant parfois un sifflement strident à un autre qui filait en sens inverse vers Paris sur les rails voisins. L'espace d'un instant et plus rien. Quand le train virait, on aurait dit que tout le paysage virait avec lui. Mais les gens des maisons de campagne isolées, des hameaux, des villages qu'ils dépassaient de loin, ne sentaient évidemment pas ce virage, comme nous ne sentons pas que la terre tourne. Comme si le monde était partagé en deux cercles, tournant différemment dans la même orbite, l'un ayant pris racine du passé dans le présent et voulant rester dans sa tranquillité, et l'autre à partir du présent se projetant dans l'avenir où personne ne sait ce qui nous attend. Mais nous nous dépêchons d'y aller, comme les enfants se dépêchent de grandir, n'étant pas même conscients qu'il n'y aura rien de plus beau. La gare était toute neuve, elle sentait encore le béton humide et la peinture fraîche, elle aurait voulu s'intégrer dans le paysage de cette contrée, pas s'intégrer, mais donner l'impression qu'elle était apparue sans aucune intervention humaine, comme s'était dressée toute seule en plus de 100 000 ans, les crêtes des collines traçant la ligne d'horizon, comme d'elles-mêmes des couches de végétation les avaient recouvertes, denses en bas et de plus en plus rares à mesure qu'elles grimpaient, pour finir par jaunir et devenir de malheureux bosquets nains, comme toute seule entre les collines s'étaient étendues les vallées, au creux desquelles, il le savait maintenant, fleurissent des lavandes en longues vagues intensifiant jusqu'au violet le bleu du ciel intact, comme toute seule dans ces montagnes et ces vallées s'étaient éparpillées maisons et maisonnettes solitaires, où s'étaient agglutinées dans les ruelles étroites des hameaux ou des villages, où l'air est surchauffé par le soleil et où la corde du violon des cigales perce les tympans. Pourtant, peut-être à cause des jeunes arbres plantés de l'année sans qu'on sache s'ils allaient prendre, peut-être à cause du grand parking sans ombre rempli de voitures, peut-être à cause de cette autoroute qui s'étendait au loin comme la seule échappatoire possible, cette nouvelle gare avait l'air d'un nouveau-né qui venait à peine de respirer, mais qui savait déjà que personne ne l'aimerait jamais, que le milieu qui l'entourait ne l'accepterait jamais. Bien que son gosier torturé par la soif eût voulu au moins une goutte d'eau, et que ses yeux, par pitié pour lui, cherchaient un bar ou un café, ses jambes, elles, cherchaient à s'enfuir au plus vite, comme quelquefois on veut fuir de soi-même, quand la compassion que l'on éprouve pour sa propre tristesse devient insupportable. Il fallait encore prendre un bus, il n'y avait personne d'autre. Ou, plus exactement, si peu de voyageurs empruntèrent ce grand bus, il y avait tant de places libres, d'espace, qu'on aurait dit que tu étais complètement seul, que ces quelques personnes étaient à la fois avec toi et en même temps extrêmement loin, aussi loin que ceux qui le dépassaient en voiture et qui, vu d'en haut, avaient l'air d'insectes aux ailes de fer repliées, sur lesquelles le soleil jetait des étincelles rouges, vertes, jaunes. Pourquoi de si grands bus pour des parcours si peu fréquentés? Le début du nouveau siècle avait marqué encore une sorte de fin de la belle époque. L'humanité ouvrait les yeux, plus exactement avait été forcée d'ouvrir les yeux et tressaillait, effrayée de l'avenir. L'inquiétude d'individus isolés qui avait précédé avait dégénéré en anxiété publique. Les journaux rendaient compte de conférences mondiales consacrées au changement climatique, pendant que la fonte des glaciers polaires, la disparition des forêts amazoniennes, l'épuisement des gisements pétroliers en Arabie Saoudite et dans le monde entier devenaient des thèmes de conversation quotidienne dans les cafés, les bars, les restaurants et les dîners en famille. Tu ne pouvais pas t'en échapper. Tout se rapprochait soudain, comme si le monde s'était contracté en un collier de rosée, suspendu au fil d'une toile d'araignée. Après tout, toi-même, un soir d'été ou d'automne dans ta mansarde, tu avais éteint ta lampe en même temps que d'autres, que des centaines de milliers d'autres gens d'une multitude de pays. Et quand tu avais vu que dans ta cour encore d'autres s'étaient éteintes, un étrange sentiment communautaire t'avait envahi, même s'ils étaient loin et que tu ne les connaissais pas. Tu t'es rappelé de cette agitation d'alors, de cette fête grandiose quand l'an 2000 avait traversé le monde par fuseau horaire. Nous ne savions pas encore alors que ce n'était pas qu'une fête, mais aussi un adieu. Un adieu non seulement à 100, 1000, 2000 ans, mais aussi à la belle époque dans laquelle nous vivions. Il ne nous venait même pas à l'idée qu'elle était aussi une belle époque, tout comme il y a 150 ans, ni les dames qui se promenaient au jardin du Luxembourg avec leurs longues robes et leurs chapeaux dont les rubans flottaient au vent, ni ces messieurs distingués en costume au bras desquels ces dames déambulaient, ni les enfants aux joues rouges d'angelots tournant sur les manèges n'avaient pas même imaginé que cette belle époque d'antan les avait conduits aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Nous ne réalisons que nous vivons des périodes heureuses que lorsqu'elles prennent fin. Pourquoi envoyer de si grands bus pour des parcours si peu fréquentés? Il regarda par la fenêtre. Son regard revint de la chaîne du Luberon à la plaine aux vignes mûrissantes, aux pommiers, aux pêchers, à la vaste plaine dont la vue était masquée subitement par de grands roseaux, ou par les troncs d'une allée de platanes défilant devant ses yeux, un virage, et de nouveau les grands champs, asséchés par le soleil et le vent, avec, au milieu, le vert de haut cyprès. C'est étrange comme les personnes âgées, qui ne savent plus le soir ce qu'elles ont mangé à midi, avec les années, se souviennent de plus en plus clairement de leur enfance et de leur jeunesse. De la même façon, tout ce qui se passait autour de lui maintenant semblait n'avoir ni importance ni réalité. Seul le préoccupait l'avenir lointain, cette étrange impression de fin inévitable. Toute cette beauté touchait à sa fin. La ville s'étendait dans la plaine. La route par laquelle on y était arrivé était devenue la rue principale qui rejoignait à la sortie de la ville d'autres routes, serpentant en lacets abrupts ou amples en direction des villages et bourgades, éparpillées sur toute la chaîne. C'était une longue rue étroite, épuisée par la chaleur du mois d'août, s'étirant avec difficulté entre les immeubles aux couleurs déteintes qui l'enserraient des deux côtés, se frayant longuement et péniblement un passage entre les centres commerciaux, l'ancienne gare de chemin de fer, des boutiques plus modestes, la pharmacie, la poste, trouvant enfin de la fraîcheur sous les branches larges des platanes qui la couvraient de leurs frondaisons ombragées. Une fois le pont traversé, elle tournait autour d'une place, au-delà de laquelle commençait la vieille cité. Une allée de platanes s'alignait le long de la rivière en crue au printemps, mais maintenant complètement à sec, avec de pauvres rives poussiéreuses et un fond boueux tellement cuit au soleil qu'il en était tout craquelé. Si on passait sans s'arrêter dans cette ville, n'en traversant que cette rue principale, elle laisserait sans doute un arrière-goût de province insipide, mettant sûrement autant de temps à se dissiper que la poussière d'un chemin de terre, soulevée en longue traînée par le passage d'une voiture et tourbillonnant longtemps sans vouloir se disperser. Mais tout changea quand, descendu de l'autobus, il vit qu'il avait encore du temps. Il revint en arrière et, après être passé sous une arcade étroite, au-dessus de laquelle s'élevait une tour couronnée par un clocher en forme de cage en fer, il se retrouva dans la vieille cité. Oui, c'était ce même calme de l'après-midi, lorsque le mouvement des aiguilles de l'horloge ralentit. Oui, cette même inertie, lorsque le soleil semble figé pour l'éternité dans la voûte céleste, la rendant incandescente. Pourtant, à peine un pas franchi dans la rue étroite du cœur de cette ville, qu'aussitôt on dirait que chaque pavé te renvoie sa fraîcheur, spécialement pour ce jour-là, pour cette heure-là, que tu conserves pour toi seul depuis des siècles, et quand tu lèves les yeux pour observer les entrelacs architecturaux des époques précédentes, on dirait qu'ils ont été composés exprès pour toi et qu'ils t'attendaient. C'est étrange, la pierre dégage plus de vie que les gens qui flânent ici. Tu te sens plus proche d'elle que des vacanciers et des touristes qui cherchent des cartes postales, palpent les nappes jaunes, bleues, violettes brodées de cigales ou de lavande, ou qui, tête renversée, scrute le cadran solaire, goûte l'huile d'olive dans les petites boutiques, hume le savon de Marseille de différentes qualités, formes, couleurs. Plus la ville te semblait proche, plus les gens devenaient lointains et plus tu restais avec toi-même, comme pendant tes balades dans les terrains vagues des banlieues de Paris. Il ne voulait être qu'avec lui-même, avec son vide muet, comme la voûte céleste en ce moment, sans nuages, chauffée à blanc par le soleil, comme toi, sans aucun témoin ni juge. Il descendit doucement la rue principale de la vieille ville et se retrouva sur la place qu'il avait passée récemment, après que l'autobus a traversé la rivière pour s'immerger dans l'ombre de l'allée de platanes. Il entra dans le café. Il y avait peu de gens. Sous les parasols de la terrasse extérieure, seules quelques tables étaient occupées çà et là. Les nouveaux arrivés se distinguaient clairement, mais lorsqu'il passa le seuil et se retrouva à l'intérieur, où les murs épais gardaient la fraîcheur, où des hommes en manches courtes ou retroussées, de toute évidence des autochtones, buvaient du pastis, lisaient le journal local, où deux autres encore près du tapis vert heurtaient des boules avec leur queue de billard, Il lui apparut que la salle et la terrasse étaient deux mondes à part, tacitement séparés. Ceux qui venaient d'arriver n'avaient peut-être pas saisi que, par une telle chaleur, il aurait été plus agréable de passer son temps à l'intérieur. Peut-être voulaient-ils rester dehors pour voir la rue bigarrée. Mais s'ils avaient pensé entrer à l'intérieur, qui sait s'ils auraient osé. Ces quelques autochtones et le barman se sentaient tellement chez eux dans leur rituel quotidien. Ils avaient tant vécu les uns avec les autres, étaient si habitués à cet espace, baignant dans un demi-jour, qu'aussitôt les autres se seraient sentis complètement déplacés, étrangers à eux-mêmes. Et lui, il cherchait justement à être hors contexte, à être étranger à lui-même. C'est cela dont il avait le plus besoin. Comme s'il avait une maladie dont il ne voulait pas se guérir, au moins pour le moment. C'était Un morceau de ciel sur terre, un roman de l'écrivain lituanien Valdas Papievis, traduit par Caroline Paliulis et paru aux éditions Le Soupirail en 2020. Cette émission, comme toujours, était réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre comme interlude musical le thème du film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche soir et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle lecture à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.